Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est déjà le troisième épisode à la poursuite d'Ella Maillard pour rejoindre l'Inde depuis Pékin. Aujourd'hui, deux chapitres où elle part enfin en camion vers Lanzhou, la capitale du Gansu, après avoir effectué son premier voyage en train. Installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 4, en camion. La semaine qu'il nous fallut pour gagner Lanzhou, capitale du Gansu, est parmi les plus fatigantes dont je me souvienne. Les trois premiers jours, j'eus la chance d'être assise à côté du chauffeur. J'y respirais les gaz mal brûlés du moteur, mais j'évitais le froid qui ankylosait mes trois compagnons à l'arrière. Nos pannes étaient aussi nombreuses qu'exaspérantes. Nous nous embourbions, nous restions pris dans une rivière dont la glace avait cassé sous notre poids, de vulgaires crevaisons nous immobilisaient pendant des heures. Alors, le chauffeur jetait sa pelisse de mouton sur le radiateur et s'escrimait, tandis que les passagers des trois camions, liés par leur infortune, pérolaient, piétinaient et conseillaient infatigablement sans épargner leur « Eya !» étouffés à demi sous leur cache-nez tricoté. Au reste, ils se gardaient bien de prendre la pelle ou d'aider au halage de la voiture embourbée. À côté de moi était un autre passager privilégié. Vêtu à l'européenne, fumant une petite pipe élégante, c'était un cantonais aux dents étincelantes, aux yeux souriants. Fils d'un riche marchand, il voulait voir le monde pour son plaisir, et me disait comme si ce fût tout simple, « Je vais à Urumqi, invité par un ami qui est général. Je prendrai l'avion à Lanzhou. » « Mais voyons, il n'y a plus de service aérien, et vous n'y parviendrez jamais, lui dis-je en riant, sûr de mon fait, et sans lui dévoiler le secret de ma route. N'avez-vous pas entendu parler des déboires essuyés par Lo Wan Khan lui-même ? » Il s'agissait d'un ministre de Nankin, qui avait eu la malencontreuse idée d'atterrir à l'aérodrome d'Urumqi et n'avait pu regagner la Chine qu'au prix d'un crochet par la Sibérie. Comme il me questionnait, je lui dis que nous allions visiter la célèbre lamasserie de Kumbum. Mais soudain, une idée terrifiante, qui d'ailleurs ne se vérifia pas, me traversa l'esprit. N'était-il pas envoyé pour nous épier ? Parmi les modestes passagers, lui seul voyageait confortablement, exhibant chaque soir, dans la chambre de l'auberge, lit de camp et boîte de conserve. Nous autres n'avions que nos sacs de couchage, que nous déroulions sur le kang, plateforme surélevée en terre battue qui forme le seul aménagement des maisons chinoises et qu'on peut chauffer par en dessous. Nous progressions lentement. Et dans les champs, où déjà perçaient quelques pousses vertes sous le ciel bleu pâle, des cercueils de bois étaient comme abandonnés à la dérive, selon l'immémorial usage du paysan chinois qui se borne à déposer ses morts sur la terre ancestrale. Ça et là, une stèle embourbée, une allée archaïque d'animaux de pierre qui jadis avaient mené vers la tombe d'un riche, semble attendre avec patience la venue de l'horizon vaporeux. Après la première nuit, nos trois camions firent halte tout près de Xi'an, dans un village boueux et noir comme de la poix. Après avoir avalé des pâtes à l'eau chez le gargotier du coin, pour quelques sous, nous avions dormi entre des murs de terre battue. En partie écroulée, dans un bol ébréché, une mèche de coton traînait dans de l'huile et nous éclairait à peine. Le second soir, dans un bourg aux auberges combles, nous avions rendu visite à un père italien qui soupait au milieu de ses ouailles lorsque nous le surprîmes. Désolé de ne pouvoir nous héberger, il nous fit présent de beurre en boîte, au luxe, préparé par les sœurs franciscaines de Hopé. Depuis des années, sa vie s'écoulait là, toute faite de dévouement. Lors de famine ou de brigandage, il prodiguait ses soins aux chrétiens. Longtemps, je me souviendrai de l'immense madone souriante qui, dans son cadre doré, couvrait toute la hauteur d'une paroi du réfectoire. À la fin du troisième jour, quelle ne fut pas ma surprise de voir se dresser au loin une église comme celle de chez nous, transplantée sur ce continent où rien ne monte plus haut que le rez-de-chaussée. Les Chinois ne voient pas d'un bon œil ces flèches qui transpercent les bons esprits et les empêchent de descendre sur terre. C'était Kiancho. Dans la grande rue, les habitants devisaient en fumant leurs longues pipes à foyer minuscule. Le sol était si glissant que les Chinoises aux pieds mutilés s'appuyaient sur un long bâton. Le missionnaire de Kiancho et sa femme nous offrirent un souper charmant. Contrairement au père, les pasteurs reviennent régulièrement en Europe et nos hôtes d'un soir étaient sur le point de rentrer en Norvège. Cet homme gai et fort avait construit lui-même la haute église, fierté de sa vie. Et sa femme, Madame Gjesset, racontait que lors du récent pillage de la localité, ils avaient été épargnés, eux et leur école de jeunes filles, parce que jadis, elle avait soigné et sauvé la vie du chef des pirates. Elle avouait n'avoir pas dormi sur ses deux oreilles depuis 4 ans. Mais parmi les satisfactions qui avaient compensé de telles inquiétudes, je fus touchée de voir qu'elle avait contribué à abolir la torture des pieds bandés. La nouvelle route que nous empruntions transformait lentement un des pays les plus arriérés de la Chine, troglodytes. Comme ceux du Honan, les misérables paysans du Shaanxi habitent des cavernes qu'ils creusent dans les falaises de terre jaune et poreuse. Leurs champs sont pauvres. Chaque pluie entraîne des terres qui s'en vont combler très loin de là le grand fleuve jaune et provoque peu à peu ces redoutables changements de lit. Pour réparer le méfait des pluies, les hommes, comme des fourmis, transportent infatigablement de la terre dans des paniers suspendus à leurs balanciers. Plus aucune forêt ne régularise le climat, n'atténue les précipitations. Pour se chauffer, pendant des siècles, les fils de Han ont déboisé. Il ne reste plus un arbre. Cette terre impalpable donne son caractère les plus marquants au paysage chinois. Elle coule sous l'averse, elle fuit même entre les mailles des paniers dans lesquels les paysans la rapportent. La notion même d'un roc, d'un caillou, semble ici appartenir à une autre planète. Cette fluidité semble atteindre jusqu'au parler des Chinois, voix d'elle modulée, sourde ou chantée, où l'oreille attend les rares passages d'une consonne solide pour s'y accrocher. Le manger chinois lui-même s'allie bien à cette nature. Désossé, préparé pour les baguettes, trituré, archi-cuit dans des sauces exquises. Il se présente sous forme de bouillie, de petits tas où rien n'est entier. Et la nourriture unique de millions de paysans, le tout au fou, est un flan de farine de haricots, jaunâtre et flasque. Le travail quotidien de cette terre, l'usage journalier de cette nourriture, de cette langue, n'explique-t-il pas la forme du caractère chinois ? Pingliang. Arrivé le quatrième jour à Pingliang, le chauffeur nous annonça qu'il fallait attendre la venue d'une pièce de rechange cassée. Nous n'en fîmes rien. Nous en avions assez de nos 90 km par jour et en vertu de notre contrat, nous cherchâmes un meilleur véhicule. Bien nous en prit, car de nos 3 camions, l'un allait mettre 10 jours à gagner Lancho, l'autre en mettrait 12, et le troisième devait finir dans un ravin de Liu Pianshan, col de 3000 mètres d'altitude, que nous allions franchir. L'auberge de Pingliang avait des prétentions au confort. Il y avait un tapis sur le kang, une bougie au lieu de l'antique lampe de terre, et de nombreux serviteurs qui jamais n'apportaient l'eau que nous réclamions. Bientôt, nous serons libres, nous aurons autant d'eau que nous voudrons, disait Nina, impatiente de retrouver sa yourte. Son visage était splendide à voir, tanné déjà par ses jours de grand air, ayant perdu sa pâleur de Tianxin. Les perles espagnoles établies dans la ville étaient de joyeux garçons d'une gaieté contagieuse. C'était dimanche, et leur prière finie, ils s'attablaient devant leur cacao traditionnel lorsque nous arrivâmes. Dans l'agitation de la surprise, chacun voulait nous faire place, couvrait nos assiettes de pâtisserie. Ils semblaient vraiment heureux de nous voir, ces hommes pleins de jeunesse qui riaient à nos trouvailles latino-espagnoles, ou lorsque je leur disais que j'avais le malheur de ne pas être catholique. Ils nous parlaient du nombre de l'or, catéchumène, et de belles âmes qu'ils avaient découvertes parmi eux. Ils ne craignaient certes pas les communistes. Nous allâmes aussi chez le général Yang Bouffé. Sec, petit, nerveux, en simple tenue grise, il commandait la 61e division qui, jadis, avait fait partie de la célèbre 19e armée, illustre depuis les événements de Shanghai. Grâce au gouvernement de Nankin, ses soldats étaient payés, chaussés et armés, ce qui n'est pas toujours le cas en Chine. Le général nous offrit le thé avec bonhomie à la caserne, dans sa chambre à coucher, propre et extrêmement simple. À nos questions, il répondit qu'il se sentait très fort contre les communistes et que nous pouvions continuer sans crainte sur Lanshao. Enfin Lanshao. Notre nouveau camion marche bien. Mais quel voyage pour nos muscles! Nous sommes une vingtaine, cramponnés au sommet de nos bagages, accrochés par les mains, par les talons pour résister à la poussée de nos voisins, eux-mêmes sur le point de glisser, torturés par leurs crampes. La place près du chauffeur n'est plus libre. Aussi, pour escalader l'arrière et y vivre, j'ai adopté une tenue d'homme. Il fait froid, la neige est toute fraîche, nous avons mis les chaînes aux roues. En montant de virage en virage vers le col du Liu Panshan, un Chinois a mal au cœur et Peter, son voisin, doit rester le coude en l'air pour se protéger. Cela n'empêche pas Smig, toujours cicérone, de décrire tout ce que nous voyons. Les fortins construits contre les brigands, un géomètre et ses aides qui mesurent la route, des bambins nus qui jouent devant une masure malgré gel et neige, des carcasses d'ânes au bord du chemin. Le pauvre Smig fait pitié. Son paletot de cuir chamoisé, acheté au rabais, craque à tout effort et ses boutons s'arrachent. Son bonnet à oreillères est doublé de fourrure noire qui déteint sur son visage quand il neige. Et nous le taquinons en lui promettant un parapluie à Lanshao. Le lendemain, le voyage devient un supplice. Quelques passagers nouveaux ont réussi à s'agripper au camion. Un soldat rabroué par tout le monde et une grosse fille coiffée d'un feutre gris en forme de potiron. La mauvaise humeur règne. Ce matin, comme de coutume, Smig a vainement cherché à nous faire lever 2 heures avant le départ pour nous faire occuper les meilleures places. Nous sommes à l'arrière, asphyxiés par la poussière que nous soulevons. Un poêle en fer tout neuf est fixé près de nous et nous y accrochons notre bouilloire théière, le plus précieux et le plus indispensable de tous nos bagages. Nina a la fièvre. Smig, malgré une extinction de voix, fulmine contre un Chinois qui le pousse insensiblement. Peter en a simplement assez de la poussière, des courbatures qui l'empêchent de somnoler. Et catastrophe, il vient de casser son tuyau de pipe. Soudain, un sursaut dans un virage le surprend. Il part en l'air, je le raccroche au vol, le rassied près de nous. Et au moment où je lui sauve la vie, il trouve encore que je le brutalise. Mais la scène qui éclate au centre du camion est encore plus comique. 2 de nos voisins exaspérés en sont venus aux mains. Et à coups de poing, se martèlent le visage jusqu'au sang. Moi qui croyais qu'en Chine, il se trouvait toujours un tiers pour empêcher une bataille comme une activité peu digne d'un peuple civilisé. Chapitre 5. Première difficulté avec les autorités. C'est avec joie que nous descendons enfin vers le fleuve jaune. Voici l'aérodrome de la compagnie Eurasia, les champs de tombes, les murailles de Langshou, et nous vivons les dernières minutes à bord de notre camion, véhicule moderne. Contre un très modique paiement, nous serons tous 4 les autres reconnaissants de Monsieur et Mrs. Kimball de la China Inland Mission. Comme tous les missionnaires de l'intérieur que j'ai rencontrés, tous deux sont vêtus de la robe croisée chinoise, doublée d'agneau. Cette fois, nous avons enfin chaud. Nous mangeons à notre faim et dormons dans des draps. Mais en revanche, ô catastrophe, la route de l'Ouest est fermée aux étrangers. La police vient nous demander notre destination, nous devons remplir des formulaires et l'on emporte nos passeports pékinois. Selon Smig, Cette nouvelle manière d'agir avec les étrangers n'augure rien de bon et Mr. Campbell, réticent, laisse entendre que les voyages deviennent impossibles. À vrai dire, attendons qu'on nous rende nos papiers avant de nous inquiéter et souvenons-nous qu'en Chine, il ne faut jamais être pressé. Nous sommes à 12 jours de la côte et l'opinion courante des Shanghaïens est que les habitants du Kansu sont à moitié barbares. Mais les hommes sont grands et robustes, avec un visage allongé, souvent fort beau, et une ville d'un demi-million d'habitants peut-elle vraisemblablement être barbare? On vient d'y installer l'électricité, encore anémique, il est vrai. Écoles et universités sont archi-combles, et il serait à souhaiter qu'on attribuât 500 000 dollars du fonds Boxer à la fondation d'une bibliothèque et d'un laboratoire universitaire. C'est ce que me dit le fort sympathique Mr. Si Si Shui, chef du département de l'instruction, dont j'avais rencontré le fils à Pékin. Les rues de Lanshou sont larges, bordées des shops où les commis s'affairent derrière leur comptoir. Quelques boutiques de faïence ou d'étoffe méritent même le nom de magasins avec leurs fenêtres vitrées sur la rue, au lieu du classique treillis de bois recouvert de papier blanc. Sur la grande place, devant la résidence du gouverneur, qui ne veut pas nous accorder l'entrevue que nous lui demandons, un agent de police fait observer le sens giratoire que suivent mules chargées, cyclistes encore inquiets de leur équilibre, pousse-pousse et charrettes de tout genre. Vêtus de leurs courtes vestes de satin noir sur la robe longue bleue, les lettrés lisent chaque jour le journal collé au mur sur la place. C'est le quotidien du Nord-Ouest, donnant les dernières nouvelles de l'avance communiste. Dans une branlante baraque, il y a même un cinéma que je soupçonne fort d'être tourné à la main. Les projections de scènes shanghaïennes des plus égratignées et fort pâles, et à vrai dire, j'essaye avant tout de comprendre ce que nous dit en mauvais anglais plein de sous-entendus notre voisin, un certain monsieur Wang. Affilié ou non à la police, il paraît savoir qu'on se renseigne à notre sujet à Pékin et que d'ici 5 ou 6 jours, peut-être, nous connaîtrons notre sort. Ma promenade préférée pendant ces loisirs forcés m'entraîne derrière les porteurs d'eau. Dans leur seau plein qui s'équilibre au bout du balancier, un morceau de bois flottant empêche l'eau de clapoter et rejaillir. Les métiers ambulants passent, chacun articulant son cri particulier, barbier ou recolleur de bois cassé, de bol cassé, vendeur de poires gelées ou d'épaisses soupes aux fèves dans laquelle nagent des amandes. Les gamins trottinent aux pantalons commodément fendu, une petite tresse en queue de rat à angle droit sur le côté de la tête. Lorsque je m'arrête pour recharger la petite boîte mystérieuse qu'est mon Leica, tous ces marmots m'entourent comme une nuée de moustiques, se jettent sur le bout de pellicule que je leur abandonne, et l'agent apathique, se faisant terrible pour un instant, essaye de les disperser. Les hommes sont tous vêtus du pantalon ample, serrés à la cheville par une bandelette qui leur donne une silhouette de skieur. Les travailleurs, en effet, ne portent pas la robe manteau, mais une veste courte doublée de moutons. Avec les porteurs d'eau, je sors par la porte nord qui traverse comme un tunnel la haute enceinte et que domine un pavillon à 3 étages décroissant, et je me trouve dans le calme, au bord de la grande rivière, paysage élargi et reposant. Sur la berge, appuyé sur sa godille, un radeau de 12 outres sèche au soleil, en attendant de regagner, chargé sur les épaules d'un seul homme, son village d'origine situé bien des jours en amont. Plus loin, mon œil mesure le merveilleux échafaudage d'une route d'irrigation immobile dans le pâle ciel jaune. Le fleuve est très bas, et loin de l'eau, ses godets chômeront encore longtemps. En amont, un pont de fer enjambe le fleuve. Là-bas, en face, accroché à la falaise comme un chemin de croix chez nous, un chapelet de petits temples mène vers une pagode de faïence à étages. Pourrons-nous continuer? Chaque soir, rentrant à la mission, la même réponse nous attendait. Vos passeports ne sont pas là. Smig avait retrouvé des marchands de laine et de cuir et s'était informé des derniers cours. Mais il avait appris aussi qu'une 15aine de Russes émigrés arrivé ici il y a un mois pour travailler, avait été renvoyé vers la côte en vertu d'un décret récent de Nankin qui interdisait à tout russe d'origine de séjourner dans le Nord-Ouest. C'est la guerre anticommuniste qui motivait ces mesures. À peine partis, allions-nous perdre nos interprètes, comme le laissaient même supposer des rumeurs émanées du bureau de police ? Le fait d'être sujet chinois se retournait évidemment contre les SMIG. Ils étaient suspects, leur acte de naturalisation étant daté d'Urumqi, ville tombée sous le contrôle des soviets. « Monsieur Feming, disait SMIG anxieux, vous ne faites pas tout ce que vous pouvez pour nous aider. » Mais le gouverneur ne pouvait être fléchi même par un cadeau royal. C'était un homme moderne. D'autre part, un départ en fraude risquait de tout compromettre. Que n'avions-nous évité Lancho en prenant à travers la campagne ? Quoi qu'il en soit, nous fîmes une dernière visite à la police, où Peter avait déjà plaidé, usant jusqu'à la corde les arguments que nous avions préparés. Voulait-on vraiment nous faire perdre la face en envoyant les SMIC qui nous servaient ? Et le gouverneur serait-il content d'apprendre comment nos deux journaux les plus importants de l'Europe parleraient bientôt de Lancho, cette ville aux coutumes encore moyenâgeuses ? Mais nous ne recevions que des réponses dilatoires. Comment savoir qui était digne de foi, qui était influent ? Tout en fumant une fois de plus sa pipe dans la rue, cette habitude vicieuse était prohibée à la mission, Peter se moquait de moi, qui commençait toutes mes réflexions en disant « Il faut à tout prix comprendre », alors que tout était compréhensible. Notre impuissance à diriger les événements et même à nous former une opinion sur eux, l'incertitude et peut-être l'impossibilité d'un voyage sans interprète, la fonte rapide du petit capital que nous avions emporté, tout cela nous plongeait par moments dans un abîme de découragement, sans doute aussi déraisonnable que l'espoir où nous nous laissions porter quelques instants après. Attablés tous deux devant un pot de chaodiu, alcool chaud que servent les Chinois, nous nous rappelâmes l'ardeur avec laquelle nous nous étions jurés de marcher vers l'ouest, coûte que coûte. Et sur le champ, pour donner à cette décision un commencement d'exécution, nous entrâmes chez un orfèvre et y achetâmes pour 1 000 $ mexicains de l'or en barre, gros comme une petite plaque de chocolat, pour les besoins du voyage. Les Mayannam peuvent continuer. Les Russes doivent retourner d'où ils viennent. Tel est aujourd'hui l'arrêt définitif de la police. Nina pleure doucement, assise sur sa valise. Smig jure, tempête, se révolte, accuse tout le monde et ne peut abandonner la perspective de rejoindre son paradis. Le sort est dur pour eux. Que vont-ils devenir ? Retrouveront-ils un modeste emploi à Tsentsin ? Et nous ? Pourrons-nous, sans eux, dépasser Sinig ? Smig nous donne des mots d'introduction pour deux de ses amis susceptibles de nous aider, pourvu que nous les rencontrions. Nous hâtons nos préparatifs, anxieux de partir, avant qu'on ne nous retienne en vertu d'un nouveau décret peut-être. Une dernière fois, après le petit déjeuner, nous lisons avec nos hôtes un verset de la Bible, puis, agenouillés devant nos chaises à grand dossier, nous écoutons la prière pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir le courage des missionnaires captifs des communistes, pour aider l'action des Bible Women et Tent Work, et pour que la mission ne manque pas de dons qui seuls la font vivre. Et Mr. Kimball veut bien attirer l'attention du ciel sur deux jeunes voyageurs au seuil d'une expédition incertaine qui se trouvent près de lui pour la dernière fois. Devant la porte ronde de la cour, nos 3 mules ont été chargées. Nous les avons louées à l'une des auberges locales, succursale d'une grande entreprise de transport qui se partage le pays depuis 10 siècles. Accompagnés de nos amis, nous traversons la grande ville grouillante où pendent les verticales enseignes chinoises. Au moment de nous engager sous la monumentale porte de l'Occident, je vois un Européen escorté par des soldats chinois et Peter affirme que le pauvre homme lui a dit « caput » en le croisant. Est-ce un présage ? Les SMIG ont entendu dire qu'à la frontière du Kensu, un ordre de refoulement nous attend. C'est l'instant des adieux et je console Nina. Et bien voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Et demain, nous repartons pour le chapitre 6. Vive la liberté. C'était Oasis Interdites, Della Maillard. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt à 14h demain sur Campus Grenoble 90.8.